Prologue. Extrait du Livre des Airs, tome 1 des Oracles de Maloré. Tels sont en vérité les airs de l'homme. La première ère vit la création de l'homme. Ses créateurs le regardèrent s'éveiller et contempler, émerveillé, le monde qui l'entourait. Ils choisirent parmi ces multitudes ceux qui leur plaisaient, puis ils bannirent les autres et les chassèrent au loin. Certains partirent vers l'ouest en quête de l'esprit connu sous le nom d'Ul, et nul ne les revit. Quelques-uns renièrent les dieux. Ceux-là fuirent dans les confins du nord et se commirent avec les démons. D'autres, enfin, se tournèrent vers les biens matériels. Ils allèrent dans l'est, ériger de puissantes cités. Cependant, nous nous désolions à l'ombre des cimes de Korim. Grande était notre amertume d'avoir été créé et rejeté. Or, il advint qu'une femme de notre peuple entra en transe. L'on eût dit qu'elle avait été ébranlée par une main puissante. Elle se leva de la terre où elle était assise et se cacha les yeux derrière un bandeau, car elle avait contemplé ce que nul mortel n'avait vu avant elle, et prononça ces paroles. « En vérité, je vous le dis, ceux qui nous ont créés s'apprêtent à un banquet, le banquet de la vie. Nos créateurs ont choisi selon leur bon plaisir, et ce qui ne leur agréait point, ils l'ont écarté. Nous sommes à présent le banquet de la vie, et nous nous lamentons qu'aucun invité au festin ne nous ait choisi. Mais ne vous désespérez point, car un convive doit encore venir. Si les autres invités se sont régalés, le grand banquet de la vie attend toujours l'hôte bien-aimé, le dernier arrivé. Et c'est lui qui nous choisira. Espérez donc sa venue, car elle est certaine. Bannissez tout chagrin, scrutez le ciel et la terre afin de lire les signes qui y sont inscrits. Car en vérité, mon peuple, je te le dis, sa venue dépend de toi. Sache qu'il ne pourra te choisir à moins que tu ne l'élises. Tel est le destin pour lequel nous avons été créés. Levez-vous donc, mes frères. Ne restez point assis sur la terre à vous désoler vainement. Acceptez la tâche qui vous incombe et préparez la voie à celui qui viendra assurément. Grand fut notre émerveillement à ces paroles, et nous les considérâmes avec moult attention. Nous interrogeâmes celle qui devait être la première sibylle du monde, mais ses réponses furent obscures. Alors, nous tournâmes notre visage vers le ciel, nous écoutâmes les murmures de la terre et nous apprîmes à les déchiffrer. Et dans le livre des cieux, dans les voix montant des roches, nous reconnûmes des myriades d'avertissements. Deux esprits devaient venir à nous, l'un bon, l'autre mauvais. Longtemps nous cherchâmes, et quand nous eûmes trouvé, nous en conçûmes un trouble plus grand encore, car nous ne pouvions déterminer lequel était bon et lequel était mauvais. En vérité, le mal a pris l'aspect du bien dans le livre des cieux, comme dans les chuchotements de la terre, et nul mortel n'eût été assez sage pour les départager. Nous quittâmes l'ombre des cimes de Korim en méditant tout cela. Nous renonçâmes aux préoccupations humaines afin de nous consacrer à la tâche pour laquelle nous avions vu le jour. Nos magiciennes et nos voyantes interrogèrent le monde des esprits. Nos nécromanciens prirent conseil des morts et nos devins quêtèrent la vie de la terre. Mais il s'avéra que nul n'en savait plus que nous. Nous nous établîmes enfin dans une plaine fertile pour mettre nos connaissances en commun. Et voilà les vérités que nous avons recueillies auprès des étoiles et des roches, du cœur des hommes et de l'âme des morts. Sachez que tout au long des interminables avenues du temps, la division a entaché l'ensemble de ce qui est. Car la division est au cœur même de la création. D'aucuns prétendent qu'elle est naturelle et perdurera de toute éternité. Mais cela n'est point. Si la division devait être immuable, alors le but de la création serait de la contenir. Or, les étoiles, les esprits et les voix dans les roches parlent du jour où la division prendra fin et où tout sera à jamais réuni, car la création elle-même sait que ce jour viendra. Sachez encore que deux esprits s'affrontent depuis l'aube des temps. Ces esprits sont les deux aspects de ce qui a divisé la création. Ils se rencontreront en ce monde, et le moment de leur rencontre sera celui du choix. Si le choix n'avait point lieu, ce monde disparaîtrait, et jamais le convive bien-aimé dont parlait la Sibylle ne viendrait. C'est ce qu'elle voulait dire par ces paroles. Il ne pourra te choisir à moins que tu ne l'élises. Nous devons procéder au choix entre le bien et le mal. Il s'ensuivra une réalité du bien ou du mal qui l'emportera jusqu'à la fin des âges. Sachez encore que les roches de ce monde et de tous les autres mondes parlent continuellement des deux pierres qui sont au centre de la division. Elles ne faisaient qu'une jadis, et elles étaient au cœur de la création. Mais comme tout le reste, elles furent séparées par une force qui anéantit en un instant des soleils entiers. Que ces pierres se trouvent en présence l'une de l'autre, et ce moment marquera assurément celui de l'ultime confrontation entre les deux esprits. Le jour viendra où tout sera réuni à nouveau. Mais la division entre les deux pierres est telle que rien ne la saurait abolir. Quand elle cessera, l'une des deux pierres disparaîtra à jamais, et l'un des deux esprits avec elle. Telles étaient donc les vérités que nous avions réunies, et de leur découverte date la fin de la première ère. La seconde ère de l'homme commença dans le tumulte et les bouleversements. En vérité, la terre elle-même se fendit et la mer s'engouffra dans la faille, divisant le monde des hommes à l'instar de la création. Les cimes de Corim, ébranlées, gémirent et se soulevèrent alors que les flots les engloutissaient. Nous savions qu'il en serait ainsi, car nos sibylles nous l'avaient annoncé. Aussi avions-nous poursuivi notre chemin et trouvé la sécurité avant que le monde soit fendu et que la mer reflue puis revienne et ne reparte jamais. Pendant des jours après cela, les enfants du dieu dragon, fuyant la montée des eaux, s'établirent au nord, par-delà nos montagnes. Nos sibylles nous avertirent qu'ils reviendraient un jour parmi nous en conquérant. Nous nous demandâmes comment éviter d'offenser nos belliqueux voisins et de susciter leur convoitise. Il nous sembla qu'ils ne prendraient point ombrage de frustes communautés de laboureurs vivant des maigres ressources du sol, et nous gouvernâmes nos vies en ce sens. Nous détruisîmes nos villes, en dispersâmes les pierres, et nous établîmes dans les champs où nous pensions qu'ils nous laisseraient poursuivre nos études en paix. Des années passèrent, puis des siècles. Les siècles devinrent des millénaires. Et comme nos sibylles l'avaient dit, les Angaraks revinrent établir leur empire sur notre peuple. Ils donnèrent à la terre où nous vivions le nom de Dalassi. Nous fîmes ce qu'ils voulaient et nous continuâmes nos études. Or donc, vers cette époque, un disciple du dieu Aldur alla avec certains autres dans les confins du Nord reprendre au dieu dragon une chose qu'il avait volée. Cet événement crucial marqua la fin de la deuxième ère et le début de la troisième.